Laudetur Jesus Christus.
Demande de pardon et réparation. Emmanuel Macron a reçu ce matin les harkis à l'Élysée, ces auxiliaires musulmans qui avaient combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. Un discours qui marque une rupture. Nous y revenons dès le début de ce journal. Le bras de fer diplomatique se poursuit entre États-Unis, France, Grande-Bretagne et Australie autour du dossier des sous-marins. Si Londres et Washington ont tenté d'apaiser les tensions, le gouvernement australien maintient, lui, une ligne de fermeté vis-à-vis de Paris. Dans ce journal, nous reviendrons également sur les élections législatives en Russie et la victoire sans surprise de la formation de Vladimir Poutine malgré les fraudes. Et puis en Grèce, les premières évacuations de migrants vers le nouveau camp de Samos ont commencé ce matin. Le premier d'un des 5 camps sur les îles grecques à accès contrôlé et fermé. Nous retrouverons notre correspondante à Athènes.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, à Paris, Emmanuel Macron a reçu ce matin quelques 300 harkis et descendants de harkis ainsi que leurs associations. Près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le président français a demandé pardon à ces harkis pour les souffrances que ces anciens auxiliaires de l'armée française et leurs familles ont subies aux mains du Front National de Libération en Algérie et depuis leur refuge en France. Cette nouvelle étape dans la reconnaissance du drame des harkis s'est tenue avant la journée nationale d'hommage à ces harkis qui sera célébrée comme chaque année depuis 2003. Le 25 septembre, Marie-Christine Bonzon.
Emmanuel Macron a estimé ce matin qu'il n'est pas de son rôle en tant que président de la République de juger ses prédécesseurs. Mais il a affirmé, et je cite, que la France a manqué à ses devoirs envers les harkis, leurs femmes et leurs enfants. Au nom de la France, je dis que la République a contracté une dette à l'égard des harkis et je demande pardon, a déclaré le chef de l'État, avant d'ajouter que le temps des non-dits et du déni, qui entoure encore des aspects très douloureux de la guerre d'Algérie, est révolu. Emblématique de cette douleur et de ce déni accumulé, un homme et une femme harkis ont interrompu M. Macron pour exprimer leur colère et leur souffrance. Reprenant son discours, M. Macron a annoncé un projet de loi qui vise à créer une commission nationale chargée de superviser le recueil de témoignages sur la tragédie des harkis ainsi que le paiement de réparations. Face à l'usage répandu du mot « harki » comme une insulte au sein de la communauté immigrée, M. Macron a souligné que le mot « harki » signifie « celui qui avance ». Quand on insulte un harki, on insulte la France, a poursuivi le président qui, par ailleurs, déplore que le gouvernement en place à Alger n'autorise pas les harkis à revenir en Algérie pour se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Les élections à la chancellerie en Allemagne auront lieu le 26 septembre prochain. Hier s'est tenu le débat télévisé entre les trois principaux favoris. Olaf Scholz, le candidat du SPD, Armin Laschet de la CDU et Annalena Baerbock des Verts. Le candidat du SPD qui est toujours confortablement en tête dans les sondages devant la formation d'Angela Merkel. Olaf Scholz qui s'est présenté ce matin à une audition parlementaire néanmoins délicate pour lui sur une affaire de blanchiment d'argent qui met en cause le ministère des Finances qu'il dirige. Je vous le disais en titre, les rebondissements diplomatiques se poursuivent dans la crise des sous-marins français. Londres et Washington ont tenté ce week-end d'amadouer Paris, rendu furieux par l'annonce de ce partenariat stratégique entre États-Unis, Australie et Royaume-Uni sur l'achat par Canberra de sous-marins nucléaires. À l'inverse de Londres et Washington, la diplomatie australienne Delphine Allaire, elle, maintient une ferme position.
Absolument, Olivier. L'Australie n'a pas approuvé son attachement à la France, estime ce matin le vice-premier ministre, qui n'hésite pas à invoquer l'histoire avec un grand H. Des dizaines de milliers d'Australiens sont morts sur le sol français pour le protéger lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième, déclare-t-il. Des références qui ont peu de chances d'apaiser la colère de Paris, intense depuis l'annonce de la rupture de contrat. Le ministre des Affaires étrangères français a accusé Canberra de mensonge, de rupture majeure de confiance. Les enjeux sont lourds, selon Jean-Yves Le Drian, qui estime qu'ils redéfiniront la conception même du nouvel OTAN. Alors, d'autres pays de la zone Indo-Pacifique se mêlent à ce conflit verbal. C'est ainsi que la Corée du Nord, ce matin, accuse l'accord entre Washington et Canberra de déclencher une course aux armements nucléaires. Selon Pyongyang, l'équilibre de la région Asie-Pacifique s'envoie troublé. Dans le viseur nord-coréen, bien sûr, les États-Unis. Et cette alliance stratégique considérée, Olivier, comme visant à contrer, en fait, la montée en puissance de la Chine.
Merci beaucoup, Delphine Allaire. Et puis, cette crise diplomatique et la zone Indo-Pacifique, il devrait en être question lors de la 76e Assemblée générale des Nations unies. Elle s'ouvrira demain à New York. Parmi les autres sujets majeurs de l'agenda de cette Assemblée, l'avenir bien sûr de l'Afghanistan après le départ des Occidentaux et l'arrivée au pouvoir des talibans. L'Afghanistan où sur le terrain, le groupe État l'État islamique continue de vouloir déstabiliser le nouveau pouvoir taliban. Plusieurs attentats ont eu lieu ce week-end à Jalalabad, c'est la grande ville de l'Est afghan. Des attentats visant les talibans et revendiqués par le groupe terroriste. Aux Canaries, le volcan Cumbre Vieja est rentré en éruption hier soir, des images spectaculaires. Il était sous haute surveillance depuis plusieurs jours en raison d'une intense activité sismique. Le Premier ministre Pedro Sanchez s'est rendu sur place où 5000 personnes ont dû être évacuées. Une centaine de maisons auraient été détruites par les coulées de lave. Les élections législatives en Russie dans un scrutin marqué par l'exclusion des candidats anti-Kremlin et la liquidation du mouvement de l'opposant Alexei Navalny. C'est sans véritable surprise que le parti majoritaire Russie Unie arrive nettement en tête de ces législatives. La progression du parti communiste pourrait néanmoins modifier quelque peu les équilibres au sein de la Douma. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoy.
Si Russie Unie reste nettement majoritaire, le résultat du parti au pouvoir s'affiche toutefois en net recul. Après le décompte de la moitié des bulletins de vote, il recueille plus de 45% des voix contre 54,2% en 2016. Une baisse qui profite au parti communiste, donné à plus de 20%, soit une hausse de près de 8% par rapport aux dernières législatives. Les communistes ont certes profité du système de vote intelligent mis en place par l'équipe d'Alexei Navalny et qui consiste à voter pour le candidat le mieux placé afin de battre celui de Russie Unie. Mais il a sans doute bénéficié également de la grogne sociale engendrée par la hausse de l'âge de la retraite en 2018, la baisse du pouvoir d'achat et le retour de l'inflation après la crise du Covid. Viennent ensuite le Parti libéral démocrate et Russie juste. À noter que des gens nouveaux, un parti axé sur la liberté de commerce, pourraient franchir la barre des 5% et faire ainsi son entrée à la Douma. Mais il faudra attendre au moins jusqu'à la mi-journée pour connaître son résultat. Quant aux fraudes, l'ONG spécialisée Golos en a répertorié plus de 4600 potentiels. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Un moment important au Liban, le Parlement a entamé ce lundi à Beyrouth le débat sur le vote de confiance du nouveau gouvernement. Une session néanmoins retardée par une coupure de courant dans un pays touché, on le sait, par la pire crise socio-économique de son histoire. Partons désormais en Grèce où les autorités ont commencé ce matin à transférer près de 300 demandeurs d'asile du bidonville de Vati vers le nouveau centre fermé de l'île grecque de Samos. Il s'agit de la première des 5 structures à accès contrôlés et fermés, financés par l'Union européenne sur les îles grecques qui reçoivent de plus en plus de migrants qui arrivent des côtes turques voisines. Athènes, Alexia Kefalas.
Depuis ce matin, le transfert de quelques 300 demandeurs d'asile a commencé sur l'île de Samos face aux côtes turques. Nombre de familles en détresse qui logeaient dans des conditions insalubres à Vafi, le seul centre d'accueil situé en pleine ville, sont en train d'être transférés. Le gouvernement conservateur a fait construire un camp 2.0 de l'autre côté de l'île, ultra moderne avec wifi, terrain de sport mais aussi ultra surveillé, portique de sécurité, interdiction de sortir la nuit et un camp uniquement réservé aux demandeurs d'asile. Mais qu'en est-il des autres ? Les ONG s'inquiètent et la question se pose alors que le camp de Vafi était en proie aux flammes hier soir, comme un écho au centre de Moria sur l'île voisine de Lesbos où le camp de la honte est parti en cendres il y a tout juste un an. Aujourd'hui, la Grèce veut montrer que sa ligne est dure. Face à la menace de l'arrivée de réfugiés afghans, le pays a multiplié ses patrouilles en mer et à la frontière terrestre avec la Turquie. Au même moment, le pays espère une solution européenne. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Il y a tout juste 5 ans, le 20 septembre 2016, le pape François réunissait à Assise les responsables des religions du monde entier pour la journée mondiale de prière pour la paix. 30 ans après l'événement historique convoqué par Jean-Paul II en 1986, jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence, avait rappelé le Saint-Père aux côtés des différents leaders religieux. Au Vatican, début ce lundi matin de la visite ad limina du deuxième groupe d'évêques français ce mois de septembre. Il s'agit de ceux des provinces ecclésiastiques de la région de Paris, de Lyon, de Clermont ainsi que du diocèse aux armées. Cette visite a débuté par une messe ce matin sur la tombe de l'apôtre Saint-Pierre, puis une visite au conseil pontifical pour la famille et les laïcs ainsi que le conseil pontifical pour le développement, le service du développement humain intégral. Les évêques français qui seront reçus jeudi matin par le François. Sachez enfin, dans l'actualité toujours, cette conférence qui se poursuit à Varsovie sur la protection des mineurs. Conférence internationale qui se tient jusqu'à mercredi et qui réunit une 20aine de pays d'Europe centrale et orientale sur le thème « Notre mission commune de sauvegarde des enfants de Dieu ». Plus d'informations à retrouver évidemment sur notre site vaticannews.va. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. À 18h, vous aurez rendez-vous avec Marine Henriot pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente après-midi.